Voilà, System of a Down. Tu rappelles le nom du morceau, Jacques ?
Radio slash vidéo.
Radio slash vidéo.
Enfin, slash ou barre de,
ah oui,
de fraction. Voilà.
Et comme l'avait annoncé Jean-Christophe Paul, effectivement, beaucoup, beaucoup de changements de rythme, beaucoup de vie et de choix dans ce morceau. Alors, quelques nouvelles de la planète polaire, avec deux festivals qui sont un peu éloignés d'ici, mais qui sont intéressants. Donc, on ne sait jamais si vous passez par là, si vous montez d'abord dans le Nord. Les 19, 20 et 21 mai aura lieu à Besançon. Donc, vous voyez, c'est déjà pas près d'ici, mais enfin, c'est pas
grave.
Mais
de toute manière, Agora est écouté grâce à Internet dans le monde entier.
Tout à fait. Donc, aura lieu le 9e festival des littératures policières, noire et sociale. Un long nom, mais un titre intéressant parce que c'est vrai que ça mêle quand même beaucoup de facettes de la planète polar. Donc c'est une association un petit peu semblable à la nôtre qui s'appelle Pas Sérial S'Abstenir, qui organise donc depuis 9 ans ce festival. Avec, pour rapidement le programme, donc une vingtaine d'auteurs à rencontrer le samedi et le dimanche
après-midi,
pardon, et le vendredi dans la soirée une rencontre avec Jean-Pierre Mocky avec un film un petit peu ancien et puis une avant-première de son dernier film. Sur le salon aussi, je le cite parce que c'est un album qui nous a beaucoup, beaucoup plu. Il y aura l'exposition des dessins originaux de Jorge Pinelli sur un album In a Blue Hour, dont on vous parlera certainement un petit peu plus la prochaine fois. Donc, c'est une bande dessinée dont il a fait les dessins. Marc Villard a écrit le texte, le scénario, et pour accompagner deux CD de blues. Voilà, on vous en parlera.
Voilà, c'est publié chez Nocturne.
Voilà, et j'oubliais notre
Et il y aura aussi un concert de Dr. Fox. Dr. Fox, que vous entendez régulièrement, hélas trop peu, parce qu'il nous sert de générique, là fera un concert dans un des bars de Besançon.
De Besançon. Deux semaines plus tard, ou trois semaines plus tard, enfin du 9 au 11 juin, plus près et plus chaud. La 9e édition aussi, tiens, je viens de me rendre compte qu'ils ont le même âge, le FIRN. Alors le FIRN, c'est le Festival International du Roman Noir. Et ça se passe, Jacques, à
Frontignan, dans l'Hérault.
C'est à quelques kilomètres de Montpellier. Donc, un concept original pour ce festival. D'ailleurs, je crois que c'est le seul en France à faire ce genre de choses. Chaque année, une thématique différente et des débats autour de cette thématique et évidemment au milieu du roman noir. Donc cette année, la thématique, Jacques, tu la connais ?
Oui, c'est la société du spectacle dans le roman noir, donc avec toutes ces dérives, la télé-réalité, le sport, le showbiz et la justice médiatisée. On entend plutôt pas mal parler en ce moment. Et ça, mêlé dans le roman noir, puisque ce sont le roman noir raconte la vie et ses travers, à travers une vision sociale plus ou moins. Et donc là, ben, on est en plein dedans. Du moins, je pense que les divers débats nous donneront quelques éclaircissements, au moins de ce qu'en pensent les auteurs et de comment ils le voient.
C'est vrai qu'il doit y avoir quelques belles histoires noires. Un invité exceptionnel, on peut le dire.
Surtout parce qu'il est extrêmement rare en Europe, puisque si je ne m'abuse, c'est bien la première fois qu'il vient en France. Elmore Leonard, donc vous connaissez sûrement, au moins pour ses adaptations
cinématographiques.
Il a écrit, je ne sais pas combien, il a écrit une bonne vingtaine de westerns, dont quelques-uns ont été tournés. Et
c'est un roman. Il y a énormément de grands films américains récents qui sont tirés de ses livres. On peut citer Jackie Brown.
Les deux derniers aussi.
Avec un merveilleux John Travolta.
Voilà, avec John Travolta, Get Shorty et Be Cool.
Qui est très récent.
Be Cool. Voilà, qui sont les deux romans mettant en scène le même personnage.
Voilà, donc si vous voulez le rencontrer et faire dédicacer un de vos livres ou acheter un de ses livres, du 9 au 11 juin à Frontignan, c'est toujours une ambiance très très sympa. Il faut pas oublier d'autres invités rares, puisque étrangers, donc ils se déplacent pas si facilement. Ace Atkins, dont on a parlé il y a quelques émissions, on va dire, pour un excellent roman qui se passe dans le sud américain.
Un roman, voilà, un peu sur le noir et le blues.
Et Larry Beinhart, dont on a parlé,
avec son roman Le Bibliothécaire, il n'y a pas si longtemps.
Une vision du monde politique américain assez...
Il y a quelques auteurs français aussi, et des auteurs anglais d'ailleurs, si je m'abuse, dont une anglaise.
Voilà, Maureen O'Brien.
Maureen O'Brien, nous allons faire un excellent enchaînement. Maureen O'Brien, qui a écrit il y a quelque temps, mais ça vient de paraître en France, un roman qui s'appelle Les fleurs sont faciles à tuer, c'est un assez joli titre, paru aux éditions HB. HB, c'est Huguette Bouchardot, si je m'abuse, et traduit par une certaine Lala Lenda.
Et donc Maureen O'Brien sera à
Frontignan. C'est une Anglaise. On ne dit pas son âge, parce qu'on ne dit pas l'âge des gens. De toute façon, je ne sais pas.
De toute façon, on s'en fiche pour lire le livre. Ah, d'abord.
Donc, l'histoire de ce roman, c'est Lisa Drew, qui est une jeune et belle actrice de télé. Elle est retrouvée morte par sa meilleure amie, Millie, dans une maison vide qu'elle devait visiter ensemble, une maison qu'elle projetait d'acheter. Et elle la retrouve morte dans une mise en scène macabre, digne d'un téléfilm policier, même, je dirais, un téléfilm policier anglais. Et c'est l'inspecteur John Bright qui est chargé de l'enquête. C'est un flic têtu, tenace, qui revient toujours à la charge. Il fait semblant de s'en aller, puis revient poser une question. Mais il n'a pas l'allure d'un flic. C'est pas le grand, le beau flic, héros, baraqué, truc comme ça, non. Il est un peu rablé et... Ça, il a... C'est, disons, en le lisant, ça m'a fait penser à Columbo pour beaucoup de ses attitudes, sa façon de s'acharner jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Mais comme c'est anglais, c'est un petit peu de, il y a un petit peu de Miss Marple aussi, par l'humour, par le côté, on boit le thé. Il a rapidement trois succès, donc ce John Bright, qui est inspecteur au Scotland Yard, Millie, donc qui a trouvé sa copine morte, Miss Drew, qui est la mère de Lisa, et Paul, pensé de Lisa, mais qui fut, un petit moment avant, le petit ami de Millie. Bon, c'est une histoire, les trois personnages sont bien cernés, et le roman, lui, est raconté du point de vue de Millie. Donc c'est elle qui donne ses impressions dures tout le long de l'enquête. Des fois, elle raconte par des dialogues ce qui se passe, non, ce qu'on lui a raconté, ou ce que lui fait subir l'inspecteur John Bright. C'est un roman dans lequel on se laisse, enfin du moins moi, je me suis laissé embarquer dès les premières pages. On est agacé par John Bright comme l'Emily, c'est bizarre ça. On suspecte, nous aussi, la mère qui n'est pas franchement franche du collier. On s'irrite de l'attitude du fiancé, qui a des attitudes un peu dégueulasses, qui méritait donc pas d'avoir une si jolie belle fille. On s'étonne aussi, au fur et à mesure du roman, de la tournure que prend la relation entre John Bright et sa principale suspecte, décidément aujourd'hui. Qui manipulera le plus l'autre, le flic ou la suspecte. Et on arrive quasiment à la dernière page d'une traite. Bon, le dénouement est peut-être pas particulièrement inattendu. On avait trois suspects, on finit assez vite par deviner qui est le coupable. Mais en fait, on s'est pas du tout ennuyé une seconde. On est vraiment resté plongé dans ce roman.
Bon, on retrouve un petit peu ce que disait Jean-Christophe Paul, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose qui est centré sur les personnages,
sur l'intrigue, exactement.
Et voilà. Sur les relations qui vont le nouer les uns avec les autres.
Voilà, tout à fait. Et effectivement, donc, les personnages, là, sont pas du tout des pantins qui servent à l'intrigue. C'est plutôt le contraire. À la limite, on se demande bien un moment si elle a pas plié l'intrigue pour la faire correspondre au caractère de tous les personnages et à leur façon d'agir. Alors c'est assez amusant parce que Millie voyage dans une deux chevaux, donc ça donne un petit côté kitsch.
Et lent.
On assiste à un moment à un casting de série télé, c'est assez pas forcément, non, c'est pas vraiment drôle, c'est
alors,
cocasse, disons.
Ce qui tendrait à penser d'ailleurs, à nous faire penser que c'est pas parce qu'on est actrice de télé qu'on gagne plein d'argent, parce qu'elle a qu'une deux chevaux, quoi, cette brave Millie.
Au début du roman, elle a qu'une deux chevaux, ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment en fait, on repose pas le livre avant de l'avoir terminé. Donc, si, je vous rappelle, Maureen O'Brien, Les fleurs sont faciles à tuer. c'est sous-titré une enquête de les enquêtes de l'inspecteur John Bright, et si c'est sous-titré les enquêtes, c'est parce qu'en fait c'est le premier à paraître en France, mais en Angleterre ils en sont déjà à 7. Et moi je me demande s'il sera aussi perverse avec toutes ses clientes, enfin entre guillemets clientes, parce que c'est vraiment étonnant cette attitude de ce flic, c'est vraiment un flic qui change de ce qu'on a l'habitude de voir.
Alors, on reste dans l'ambiance londonienne avec le prochain morceau de musique.
L'ambiance londonienne est noire et meurtre. Un morceau de Clash et le titre s'appelle Somebody Got Murdered. Quelqu'un s'est fait descendre.
Voilà, bien pour finir cette émission, on va parler de deux livres du même auteur qui sont parus en même temps chez un éditeur qui fait un magnifique travail sur les romans italiens, espagnols, sud-américains, enfin plein d'autres traductions. Donc l'auteur c'est Massimo Carlotto, c'est un auteur qu'on suit depuis un moment, et moi je vais vous parler d'un petit opus de 60 pages, mais qui vous frappe comme un coup de poing. Il s'appelle « Rien, plus rien au monde ». Donc de Massimo Carlotto, et en plus pour un prix modique de 6 euros. Alors c'est le monologue d'une mère, voilà comment ça commence. Faut que je range les courses, ils vont pas tarder à arriver, et j'ai pas envie qu'ils trouvent le bordel dans la maison. Ils en trouveront que dans la chambre à elle, mais là, rien, plus rien au monde, pourra y mettre de l'ordre. Ainsi commence ce monologue de cette mère qui vient de tuer sa fille, pour une broutille. Cette femme va donc attendre la police, et elle essaye de raconter une partie de sa vie sans vraiment vouloir se justifier. Comment Arturo, son mari, a perdu son emploi et comment tous ses rêves, bien modestes, se sont écroulés. Ils vivent, en fait ils survivent, eux et leur fille, grâce au ménage journalier qu'elle fait chez les gens aisés, qui ont les moyens, eux, évidemment. Plus de boulot, ça veut dire plus de vacances, ça veut dire plus de loisirs. Seulement le vermouth, c'est la chose la moins chère qu'on peut acheter et qui étourdit et fait oublier quelques instants. Il n'y a plus de sexe non plus. Comment bander quand on est si déprimé? Et il se retrouve aussi privé de ce café du pauvre, cher Aboudard, plaisir gratuit pour les plus démunis, mais dont ils sont incapables. Bref, en gros, une vie de merde où le seul espoir résidait dans leur joli brin de fille, des fois qu'elle serait sélectionnée pour une émission de télé-réalité. J'en dirai pas plus sur l'histoire. Donc 60 pages d'une noirceur absolue. Un texte qui vous touche et qui vous remue vraiment les tripes. Massimo Carlotto a vraiment trouvé les mots justes pour que cette femme nous raconte sa vie de détresse et de misère. Et d'ailleurs, un chapeau et vraiment un grand bravo à Laurent Lombard qui a traduit ce texte. Et apparemment, c'était pas de la tarte de le traduire parce que il a fallu inventer pratiquement de nouvelles expressions pour traduire réellement ce que voulait dire Massimo Carlotto. Et en lisant ce texte, c'est vrai que moi ça me rappelle une citation que j'avais eue en dissertation quand j'étais au lycée, c'est que le roman est un miroir qui se promène le long d'une grande route. Et c'est vrai que Massimo Carlotto nous a raconté dans une interview que c'était une histoire réelle, et c'est une vision terrible de la société où les petits, les humbles sont broyés par les politiques actuelles et où les drames humains deviennent inévitables tant la désespérance est grande. Vraiment hautement recommandable. Rien, plus rien au monde. Le deuxième texte.
Le deuxième texte, donc toujours traduit par Laurent Lombard, s'appelle « L'immense obscurité de l'amour ». Donc aussi déjà un titre qui nous laisse présager que ça va pas être une pochade. Ce roman met en scène deux personnages, Raffaello Beggiato, qui est en prison depuis 15 ans pour le meurtre d'une femme et de son fils à la sortie d'un braquage. Ce Beggiato est atteint d'un cancer et doit, selon la loi italienne, demander le pardon de sa victime, en fait donc le père et le mari, pour obtenir une grâce et espérer finir sa vie, une remise de peine, en dehors de la prison. Et donc l'autre personnage, c'est Silvano Contin, qui est donc le père et le mari, qui lui vit aussi dans une sorte de prison, mais c'est la prison une prison mentale créée par la solitude soudaine et intolérable après le décès de sa femme et de son fils. Comment va-t-il pouvoir répondre à cette requête, pardonner alors que lui-même vit encore un enfer au quotidien? Alors que résonnent encore à ses oreilles les derniers mots de sa femme, « C'est tout noir, Silvano, je ne vois plus rien, j'ai peur, aide-moi, c'est tout noir. » Juste avant de plonger dans cette immense obscurité de la mort, justement. Mais Silvano va entrevoir, au travers de cette procédure, le moyen d'enfin se venger. Et c'est donc à travers le récit alterné de ces deux protagonistes que Massimo Carlotto va nous raconter cette histoire et lequel des deux est le plus mal, lequel des deux va s'en sortir au mieux ou s'en sortir au moins mal. Carlotto nous entraîne vraiment au plus profond de la douleur humaine, d'une façon pourtant brillante mais glaçante.
Voilà, alors si vous voulez un petit peu d'actualité de la Noiraude pour finir quand même, si vous voulez retrouver Massimo Carlotto, on a eu la chance à Lyon il y a quelques semaines de le rencontrer juste après avoir lu ses livres et nous avons réalisé une interview qui est dans le dernier carnet de la Noiraude, qui vient de sortir tout frais des presses aujourd'hui. C'est le carnet numéro 28. Et on y retrouve deux interviews, donc celle de Massimo Carlotto et aussi une interview de Donald Westlake. Et je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui de son dernier roman, Les Sentiers du Désastre, mais ce sera pour la prochaine émission. Et Donald Westlake nous a livré quelques petits, on va dire, secrets de fabrication de ses livres, de ses personnages. C'était une interview très sympathique. Alors Jacques, tu redonnes les coordonnées
voilà,
de la Noiraude
pour te... Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations pour comment obtenir ce carnet ou adhérer à la Noiraude, sur le site de la Noiraude, www.lanoiraude.com, ou alors sur le mail... noiraude@lanoiraude.com et je rappelle, la Noiraude, ça s'écrit LANOIRODE.
Voilà, merci beaucoup, bonsoir.
Bonne soirée et à dans 15 jours.